Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Michael Harpon, l'auteur de l'attaque à la préfecture de police de Paris, stockait chez lui des informations sur ses collègues policiers. Les enquêteurs ont trouvé plusieurs clés USB à son domicile. On fait le point dans un instant. La question de l'immigration au cœur d'un débat aujourd'hui à l'Assemblée. Emmanuel Macron avait évoqué l'insécurité culturelle que peut susciter une immigration mal maîtrisée. Notion empruntée au politiste Laurent Bouvet, qui est l'invité de ce journal. Donald Trump annonce le retrait des troupes américaines de Syrie avant de minimiser le désengagement militaire américain. La France, en tout cas, s'inquiète de la situation sur place. Nous verrons cela avec Bertrand Galichet. On va donc commencer ce journal avec ces nouvelles révélations sur l'attaque islamiste à la préfecture de police de Paris. Selon nos confrères de France 2, Michael Harpon, l'assaillant, stockait dans des clés USB des informations sur ses collègues, coordonnées, données personnelles en l'occurrence. Dans ces clés, les enquêteurs ont aussi trouvé de nombreuses vidéos de propagande de l'État islamique. Ce matériel a été découvert lors d'une perquisition au domicile de Michael Harpon à Gonesse dans le Val-d'Oise. Jeudi, cet informaticien de la direction du renseignement avait tué à coups de couteau quatre de ses collègues, trois policiers et un agent administratif. Sa radicalisation islamiste n'avait donné lieu à aucun signalement écrit en interne. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, veut resserrer les mailles du filet pour que la moindre alerte fasse l'objet d'un signalement automatique. Vianney Smiarowski, encore faut-il détecter les signes d'une radicalisation.
Il est très difficile d'anticiper un passage à l'acte dans ce genre d'attaque. Il n'y a pas eu d'alerte au bon niveau, au bon moment, reconnaît Christophe Castaner. Et il n'y avait aucune trace de radicalisation dans le dossier de l'assaillant. Et pourtant, cet informaticien de la préfecture de police avait montré des signes en 2015, par exemple, quand il avait justifié l'attentat de Charlie Hebdo devant des collègues. Mais rien n'avait été consigné à l'écrit. Pour Jean-Marc Bailleul, le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, il faut revoir les habilitations secret défense, réévaluées tous les 7 ans, seulement, et améliorer le suivi des agents.
Sauf qu'une vraie enquête secret défense, c'est long. Il faut plusieurs semaines pour pouvoir faire le tour, l'environnement du collègue. Donc, il faudrait simplement que quand il y a déjà un signal de changement de comportement, il y ait à la fois un écrit et qu'on ne reproche pas à un autre agent d'avoir fait un écrit, parce que tout le danger, c'est de tomber dans la chasse aux sorcières, puis après qu'on fasse culpabiliser ceux qui ont écrit et qu'on cru bien faire. Donc tout ça, ça doit être clair, précis et sans tabou.
D'ici la fin de l'année, une nouvelle loi sur le renseignement doit être présentée, indique l'Élysée. Le suivi renforcé concernera les policiers, mais aussi l'ensemble des agents des services publics et des collectivités.
Vianney Smiarowski, merci. Christophe Castaner sera auditionné demain après-midi à l'Assemblée par la délégation parlementaire au renseignement. Les députés souhaitent l'entendre sur les dysfonctionnements qui ont conduit à l'attentat au sein même de la préfecture de police. Jeudi, ce sera au tour des sénateurs d'entendre le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron l'avait promis, les députés ont débattu aujourd'hui de l'immigration, sujet sensible qui divise la classe politique au-delà parfois des simples clivages partisans. Un débat lancé par le Premier ministre Édouard Philippe, accompagné par trois de ses ministres, Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian en charge des affaires étrangères et Agnès Buzyn pour la santé et les affaires sociales. Thomas Larabi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Vous avez assisté à ce débat sur l'immigration et malgré l'intervention de 37 députés, la discussion n'a pas vraiment eu lieu.
Oui, il faut dire que peu de monde était convaincu par la formule. À l'Assemblée cet après-midi, beaucoup de journalistes, peu de députés, avec un hémicycle aux trois quarts vide. L'opposition dans son ensemble n'a cessé de regretter la tenue d'un débat sans vote. Nicolas Dupont-Aignan dénonce un coup de com'. La France Insoumise parle de campagne électorale permanente. Pas les meilleures dispositions pour aborder le fond de ce débat complexe. Et puis difficile de débattre quand on n'est pas d'accord sur le constat. La droite et l'extrême droite voient dans les chiffres de la demande d'asile une submersion. Submersion, c'était le mot de l'après-midi du côté de la droite. De son côté, la gauche avance d'autres chiffres en rapportant le nombre de demandes d'asile à la population de la France pour montrer que notre pays n'est ni accueillant ni attractif. Une querelle de chiffres qui ne sera pas tranchée tant ce débat est une suite de monologues déconnectés les uns des autres. Côté solution, si on peut les appeler ainsi, le député LR de Lyon, Guillaume Larrivé, a proposé la mise en place d'une charte de l'immigration adossée à la Constitution et soumise à référendum. L'objectif, donner au gouvernement le pouvoir de décider librement d'attribuer ou de retirer une carte de séjour, de plafonner l'immigration par décret ou encore de suspendre le regroupement familial. Marine Le Pen a également appelé de ses voeux un référendum sur la question migratoire sans en donner le contenu. À gauche, après avoir accusé le gouvernement de souffler sur des braises, on se range volontiers derrière les constats des associations. Le règlement de Dublin, jugé inefficace, doit être refondu. On ne sait pas comment. Enfin, le manque de moyens dans l'hébergement est également pointé du doigt par la gauche en reprenant le mantra du Secours catholique notamment. Il n'y a pas de crise des migrants, il y a seulement une crise de l'accueil.
Thomas Larabi, merci. Alors, en évoquant le mois dernier la nécessité d'aborder frontalement la question de l'immigration, Emmanuel Macron avait parlé de l'insécurité culturelle qu'elle peut susciter, une notion empruntée au politiste Laurent Bouvet. Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui est l'invité de ce journal. Bonsoir.
Bonsoir.
Laurent Bouvet, est-ce qu'il y a un tabou autour de cette question de l'immigration aujourd'hui en France ?
Oui, il y a à la fois des tabous et des fantasmes. Et c'est un peu le problème qu'on a depuis maintenant des décennies. On a d'un côté toute une partie du spectre politique, en particulier la gauche, qui ne veut pas parler de ce sujet parce que ce serait faire le jeu du Front National, qui a préempté le thème il y a des années pour développer son programme anti-immigration. Donc on ne peut pas en parler parce que dès qu'on en parle, on ferait le jeu du Front National. Et puis de l'autre côté, on a les fantasmes de la grande invasion, du grand remplacement, qu'on entend de manière récurrente à l'extrême droite et pas uniquement d'ailleurs. Ces deux positions, tabou et fantasme, bloquent, enserrent le débat et empêchent réellement de penser politiquement, si vous voulez, la question de l'immigration et donc de la politique migratoire au sens général, en incluant les questions évidemment de l'asile, etc., au sens le plus large, et puis de la penser, cette question de l'immigration ou de la politique migratoire, dans un cadre plus général, parce que on ne peut pas isoler la politique migratoire comme une politique publique comme ça, qui devrait être simplement une question de régulation par le chiffre ou une question de simple droit appliqué ou non. C'est évidemment essentiel, mais il y a beaucoup plus. C'est lié aussi à la question de l'intégration des immigrés, des générations d'immigrés qui sont venus en France depuis 40 ou 50 ans et qui ne sont plus des questions de passage de frontières. Ce sont des Français qui sont là. Il y a des questions liées à, évidemment, au projet européen, comme on le sait depuis la crise de 2015 en particulier. Bref, tout un ensemble d'enjeux, des enjeux géopolitiques, climatiques, on parle des réfugiés climatiques qui vont devenir de plus en plus importants. Donc il faut avoir une vision globale du sujet.
Alors justement, Emmanuel Macron a repris à son compte la notion d'insécurité culturelle liée à l'immigration, notion que vous aviez été le premier à évoquer dans un livre en 2015. La crise migratoire finalement ne se limite pas aux enjeux économiques selon vous ?
Non, certainement pas. La crise migratoire n'est certainement pas uniquement une question économique. Les enjeux économiques sont importants, sachant qu'il y a besoin d'immigration pour un certain nombre de fonctions économiques qui ne sont plus forcément remplies par les gens qui habitent dans les différents pays européens. On le voit bien dans de nombreux secteurs. Je pense aux bâtiments, par exemple, mais pas uniquement. On peut penser aussi à la médecine, aux hôpitaux, dans un autre genre. Donc il y a évidemment des questions et des enjeux économiques essentiels, mais ça ne suffit pas, car il y a aussi des enjeux que moi j'ai nommés dans insécurité culturelle au sens le plus large du terme, là aussi, qui sont des enjeux à la fois liés aux migrants, aux personnes qui viennent en Europe, et souvent au péril de leur vie, comme on le sait, et puis à ceux qui sont installés déjà et qui voient arriver de nouveaux migrants dans des situations parfois économiquement très difficiles, mais aussi au-delà de ces situations économiques, avec des changements de mode de vie, et c'est lié en particulier à des craintes beaucoup plus larges que l'immigration. On peut penser notamment au durcissement de la géopolitique méditerranéenne, au terrorisme, aux grands attentats depuis le début des années 2000, depuis le World Trade Center, etc., etc. Donc on a des éléments très variés qui rentrent en ligne de compte et qui doivent être pensés ensemble. C'était ça l'idée de l'insécurité culturelle.
Mais est-ce que cette insécurité culturelle a un rapport de près ou de loin avec l'islam ?
En partie, bien sûr, oui, bien sûr, puisqu'il y a tout un environnement géopolitique aujourd'hui qui n'est pas simplement l'immigration en tant que telle, hein, puisque une grande partie des immigrants ne sont pas des musulmans au sens religieux, enfin au sens où ils seraient de religion ou de profession ou de culture, peu importe, musulmane, mais il y a des représentations collectives. Ces représentations peuvent être plus ou moins justes, plus ou moins ajustées à la réalité. On sait bien que les gens ne votent pas en fonction d'une réalité dont ils ont une connaissance très rigoureuse, scientifique, précise, exacte, etc. Qu'il y a précisément, on le disait tout à l'heure sur l'immigration, des tabous et des fantasmes qui conduisent à des attitudes électorales. Simplement, il faut prendre en compte ces attitudes pour, si on veut aller dans une direction plutôt qu'une autre, par exemple, et je pense que c'est tout à fait juste de mon point de vue, c'est ce qu'a dit aussi le président de la République, hein, il n'est pas le premier évidemment, mais combattre le Front National et les populistes, les nationaux populistes en Europe qui veulent arrêter l'immigration ou empêcher l'immigration. Donc si on veut les combattre, il faut se saisir de cette question et en faire une question véritablement politique au sens plein entier du terme. Prendre en compte l'ensemble des facteurs, le fait majeur que représentent les migrations, les plus loin migrations au sens général, fait géopolitique, fait démographique, fait climatique aujourd'hui, et les intégrer avec des données très importantes dans les différents pays qui sont les conditions d'acceptation, d'installation, d'intégration de ces gens qui viennent de l'extérieur par rapport aux populations qui sont déjà présentes.
Laurent Bouvet, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie à votre dernier ouvrage, La nouvelle question laïque, paru en janvier chez Flammarion. À quoi joue Donald Trump? Hier soir, la Maison-Blanche annonçait le retrait des troupes américaines stationnées en Syrie, près de la frontière avec la Turquie. Le président américain venait d'avoir un entretien téléphonique avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qui avait donc le champ libre pour mener une opération militaire contre les Kurdes de Syrie, ceux-là même qui avaient aidé les Occidentaux à chasser l'État islamique. Face au tollé, Donald Trump fait machine arrière ce soir. Il affirme que si Erdogan dépasse les bornes, il anéantira l'économie de la Turquie. Les Américains qui affirment aussi désormais que leur retrait militaire se limite à moins de 25 soldats. En tout cas, la situation inquiète les Européens et notamment la France, Bertrand Galichet.
Daesh, passé à la clandestinité depuis sa défaite territoriale, demeure une menace importante pour notre sécurité nationale, explique le Quai d'Orsay, qui exhorte la Turquie à s'abstenir de toute intervention militaire susceptible de faire renaître le groupe État islamique. De nombreux djihadistes sont toujours aux mains des Kurdes dans cette région. Une attaque des forces turques pourrait permettre à tout ou partie de ses membres de l'État islamique de s'évader à la faveur des combats. D'où la préoccupation de la France, qui confirme sa position constante. Les combattants terroristes en détention, y compris ceux de nationalité étrangère, doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Le ministère français des Affaires étrangères ajoute que les jugements et la détention sûre de ces islamistes dans le nord-est de la Syrie sont un impératif de sécurité pour éviter qu'ils ne viennent renforcer les rangs des groupes terroristes. Paris insiste également sur les conséquences humanitaires qu'aurait une attaque de l'armée turque. Elle empêcherait le retour des réfugiés dans leur région d'origine.
Bertrand Galichet, merci. Bloquer des sites emblématiques pour alerter sur l'urgence climatique, c'est l'opération que l'organisation écologiste Extinction Rébellion vient de lancer pour 2 semaines partout dans le monde, à Paris, Sydney, Madrid ou encore à Londres. À Paris, quelques centaines d'activistes d'Extinction Rébellion occupent toujours ce soir le quai de la Mégisserie, la place du Châtelet et le pont au Change qui mène à l'île de la Cité. Ils comptent passer la nuit sur place, une occupation qui pour l'instant ne donne lieu à aucun incident notable. La disparition d'une voix légendaire du sport à la radio, le journaliste Eugène Saccomanno, grand commentateur du football sur Europe 1 puis sur RTL, est mort aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Ses deux anciens employeurs l'ont annoncé dans des communiqués. Europe 1 saluant le départ d'Eugène Saccomanno, voix légendaire. RTL regrettant de son côté la voix brésilienne du football français. On termine ce journal avec le temps. Demain, pluvieux sur la moitié nord, avec un vent soutenu le long des côtes de la Manche. Au sud, le soleil s'imposera dès le matin. Les températures minimales iront de 3 à 15 degrés de l'intérieur des terres vers les régions littorales. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 16 et 27 degrés du nord au sud-ouest. C'est dans le sud-ouest qu'il fera donc le plus chaud demain après-midi. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.